Non mais tu les en... tu l'enlèves.
Oxy Radio, web radio francophone, 100% libre.
Et bonsoir, vous êtes en direct du Centre d'animation Saint-Pierre, comme tous les seconds mardis de chaque mois, pour notre émission de radio mensuelle autour des cultures libres. Tout ça, tout ça. Bonsoir Isa.
Bonsoir.
On peut dire aussi bonsoir à Mathieu s'il veut prendre un micro.
Alors.
Ah non, Mathieu, tu ne. Là, non. Ça va mieux.
Ah oui, oui, sauf que non, il n'a pas de niveau, le pauvre. Voilà. Ah, ben voilà.
Bonsoir.
Ah, on va baisser un peu ton son. Et bonsoir, Gaël. Non, Gaël, il faut allumer le micro.
Ah oui, tout simplement. Bonsoir.
Ah. Salut. Tiens, un nouveau venu.
Un nouveau venu qui était la semaine dernière et qui vient chercher le t-shirt. C'est génial. Ça, on va pouvoir faire en direct la remise du t-shirt au seul auditeur qui a osé nous appeler en direct. Ouais, bravo.
Ouais, moi je dis bravo.
Sauf que ils n'avaient pas du tout ni de t-shirt orange, ni bleu, ni rien. Alors, ils avaient anthracite.
Je ne sais pas pourquoi, mais alors je suis obligée de faire un coucou comme ça parce que je surveille des flux. Nous avons un stream qui fait un peu la tronche, mais c'est le stream Girol. Bon, donc là ça va mieux.
Bon.
Pourtant, on n'est pas nombreux, hein, donc.
C'est ça, on n'a pas les.
Donc interdiction de télécharger quoi que ce soit. Quoi.
Exactement.
Quoi qu'il en soit.
Mathieu, il y aurait besoin d'aide pour brancher un ordinateur.
J'ai besoin d'électrons.
Alors, bon.
Alors,
ce soir, il n'y a pas de programme. Ce soir, c'est Radio Troll. Alors, j'essaie bêtement d'enregistrer, mais je ne sais pas si je peux enregistrer. Je ne comprends pas ce que.
Mais je pense que sur le serveur, ça va être enregistré. Il faudra demander à notre 6 amis Antoine.
Normalement, ça sera enregistré automatiquement. Ça nous découpe des petits podcasts avec des noms complètement. Bizarroïde, enfin chiffré quoi, la date du jour. Bon, on s'y retrouve, mais bon, c'est pas très clair. C'est pas grave.
Enfin,
c'est déjà pas mal, c'est déjà très très bien.
De toute façon, il va falloir un jour découper les podcasts que l'on a en retard,
c'est-à-dire
à peu près
voilà.
3 mois de podcast.
Moi, j'ai les concerts aussi à faire, comme d'hab.
Il y a du travail encore à Radio Girol, il faut aussi changer le site internet. Enfin,
du boulot.
Enfin, on n'est pas là pour parler de ça.
Mais si. On a dit que c'était Radio Troll ce soir. Et donc, on va troller sur les gens qui sont
pas là. Mais ça, on y viendra.
Et venir.
On y viendra. On a quand même un petit programme. De quoi on va parler? On va peut-être faire un petit retour avec Mathieu sur l'Utris 0.3 qui est sorti donc pour notre Girol Party il y a maintenant une semaine et demie,
ouais.
Le 29 juin. Donc on reviendra sur ça. Ah tiens, on a un plagiste qui revient.
Il est un peu pâle pour un plagiste, tu trouves. Hein. Ouais. C'est pas,
Edouard.
Il a plagié à la base sous-marine.
Edouard va donc, comme on est au moment du programme, Edouard va nous parler de sa recherche vaine du câble sous-marin à la plage.
Mais si, c'est possible.
Mais si, c'est possible.
Parce que ce soir, c'est Radio Troll.
C'est Radio Troll. D'ailleurs, on fait. On va faire coucou à Thomas qui est peut-être encore à la plage. Tu sais s'il est à la plage, Thomas? Ah, il doit être au boulot. Tu crois qu'il travaille, lui?
Il fait quoi,
un stage à la... au sud-ouest. Ouais.
Ah,
partie.
Multimédia.
Non, c'est. Ah oui, guide de l'été du sud-ouest, donc le quotidien.
Déjà pardon. De l'été? Mais quel
voilà,
été?
Donc il a trouvé un stage là. Je pense que ça doit être sympa quand même.
C'est ça. Bon, donc, il va peut-être arriver, mais un petit peu en retard. De quoi on va pouvoir parler aussi De quoi on va pouvoir troller? Il va falloir trouver des sujets. C'est pas si évident que ça, en fait, de troller pendant une heure.
On trollait, peut-être pas troller, mais bon, on a des sujets quand même. Donc, voilà. On va pouvoir revenir sur le lancement
de l'Utris. De la nouvelle version de l'Utris, parce que l'Utris est lancée depuis longtemps.
Oui, enfin, de la nouvelle version de l'Utris, oui. En effet. Et,
après, niveau actualité, il y a quand même de quoi faire.
Oui, nous avons Tafta.
Oui, Tafta. Moi, je pensais aussi à la fin d'Adopi. Alors, j'ai fait fin avec des crochets avec les doigts.
Ouais, la fin d'Adopi. Ah, tu veux dire le début d'Adopi chez le CSA, quoi.
Voilà, le transfert de compétences. On appelle ça un transfert de compétences, de fonds et de moyens, tout ça. Tout
je pense
ça.
Qu'Adopi existe encore, mais c'est juste c'est le CSA qui le récupère.
Voilà. En fait, c'est ou comment engraisser le CSA et lui donner encore plus de pouvoir.
Ou également
sur
aussi.
Auquel il ne comprend rien.
Autre chose, c'est que l'État demande au FAI de des procédures qui sont assez administratives et lourdes, même financièrement pour les FAI, à savoir rechercher les abonnés pour leur refiler les IP, tout ça, enfin plutôt refiler les adresses.
Pas à
mais, et les FAI ne sont pas rémunérés à ce titre par l'État pour les procédures demandées.
Ouais.
Donc il y a ça aussi qui fait que
si les FAI faisaient grève,
Aussi, mais je pense qu'ils ne peuvent pas se mettre en défaut. Il faut d'abord.
Non, mais bon, au bout d'un moment, il se passera un truc, quoi.
Enfin, on est toujours dans le programme. De quoi on va parler après ? On pourra sûrement faire un petit point sur l'affaire Snowden et puis la NSA, Prism, tout ça. Et notamment, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, j'ai envie de revenir en fait sur deux choses. Un article qui est paru aujourd'hui sur PC Impact et qui.
Pas vu.
Alors, oui, qui parle. Alors, je vais vous retrouver l'article, je l'ai dans mon Charlie. Manuel Valls défend la légitimité des technologies de surveillance sur PC Impact et j'aimerais qu'on le mette en relation avec un article paru sur Reflet. Qui est le titre de l'article, c'est Pierre Gattaz, le guide suprême du MEDEF et son petit livre bleu.
Ah oui, ça je l'ai lu.
Voilà, et en fait vous allez voir
sur la manipulation des enfants.
Voilà, des enfants. Et puis comment en fait et puis le lobbying que cet industriel fait auprès de l'État justement pour promouvoir les solutions biométriques de surveillance et tout ça. On y reviendra tout à l'heure. On parlera justement de la mise en relation de ces deux articles. C'est assez intéressant du coup.
Je pense qu'en les mettant en relation, on se rend compte que chez Reflet, ça fait longtemps qu'ils disent des vérités que personne ne veut ne publier déjà, à la base, chez les grands médias.
Donc, on va parler de tout ça. Et puis, on trouvera bien un peu de temps entre temps pour troller. Tout ça. Enfin, je propose pour l'instant que pour se préparer, on écoute une petite musique.
Eh bien, écoutez, allez, soyons fous, je vais lancer un jingle et puis une petite musique.
Tu vas lancer un jingle ?
J'annoncerai la musique après.
T'écoutes Radio Girol.
Radio Girol.
Fire!
voilà, nous sommes de retour, nous sommes reviendus.
Alors, c'était qui ce groupe, le titre de la chanson?
Alors, c'était Liliane Guiche, A Story Swept.
Alors, on va commencer avec le premier sujet de la soirée. Alors, ça va être à toi, Mathieu. Bonsoir, Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Mathieu, tu as gentiment attendu le 29 juin, la date de l'install party, pour nous faire à tous une surprise. Tu as sorti la version 0.3 de ton logiciel Lutris. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, déjà, je n'ai pas vraiment attendu. Je me suis plutôt dépêché, genre comme un malade, en bossant. Genre,
tous Mais les je temps. Te donnais l'occasion de... voilà, de gruger un peu.
Ouais, non, c'était plutôt genre, la course pour genre, réussir à sortir un truc à peu près stable genre, le jour de l'install party. Et finalement, ouais, voilà, fin, j'ai sorti une version, on va dire, majeure de Lutris, donc, qui est une plateforme de jeu open source pour l'install party et qui est un bon pas en avant pour le futur du projet.
D'accord. Alors, dans quel sens un bon pas en avant?
Eh ben dans le sens que ça arrive avec un nouveau site web et qui permet, depuis le site web, d'installer des jeux si y a un installeur qui a été écrit pour un jeu donné.
D'accord. Et ça surtout aussi laisse la possibilité à des gens de participer plus activement à la communauté des joueurs Lutris en écrivant des scripts d'installation voilà. Simples pour que les gens puissent installer facilement voilà. Chez
Donc,
eux.
Donc ça... Il n'y a pas forcément de compétences nécessaires en programmation. Enfin, c'est une syntaxe qui est très simple. Et on peut déjà commencer à en écrire. Voilà.
Alors, le site internet de Lutris.
Lutris.net.
Voilà. Et on peut télécharger. Est-ce qu'il y a des dépôts, des choses comme ça d'activer pour les différentes distributions Linux?
Pas de dépôt, mais il y a une version Ubuntu qui doit marcher sur Debian aussi, même si je n'ai pas testé. Une version Red Hat, enfin une version Fedora, et sinon disponible en TarGZ, compatible normalement sur toutes les distributions.
D'accord, sachant que c'est tout écrit en Python, donc...
Python, donc rien de particulier, pas beaucoup de dépendance. Ça devrait fonctionner partout, c'est le but. Quoi.
D'accord. Alors, tu m'as dit que notamment un screencaster assez connu dans le monde Linux, qui est sur YouTube, enfin YouTuber, on peut dire, Linux Gamecast, a fait un petit test.
Ouais, l'équipe de Linux Gamecast qui ont un peu testé ça suite à l'annonce que j'avais mise sur Reddit. Donc, il y a eu une réception, on va dire, assez mitigée, parce que bon, c'est quand même un projet qui est. Il y a des fonctionnalités qui manquent par rapport à ce que je lui ai apporté. Donc, les gens, quand ils arrivent, ont du mal à tout de suite saisir l'utilité du projet, surtout si on n'exploite pas tout à fait tout ce qu'on peut faire avec. Donc, pour l'instant, il manque encore de la com sur le site, par exemple. C'est aussi des retours qui m'ont été faits sur Reddit quand j'ai posté l'annonce. Depuis, j'ai amélioré le site, mais... Il manquait des textes explicatifs de ce que peut faire le projet, vraiment. Des possibilités. Enfin, là, il y a pour l'instant des possibilités qui sont données, mais rien qui les met en avant. Donc, il manque aussi cet aspect communication.
Justement, quand je vois sur le site, est-ce que tu n'as pas intérêt à mettre une page wiki, par exemple, éditable par toute personne qui s'inscrit et qui puisse du coup t'aider à documenter, on va dire, entre guillemets.
Il y a un wiki, mais il y a même deux wikis.
Officiel, enfin des trucs.
Oui, officiel, enfin pour les contributeurs au projet.
D'accord, mais c'est vrai que ça reste un peu obscur pour ceux qui voudraient l'installer sans forcément penser à la contribution. Dire voilà, je sais que je me souviens que le guide d'install est pas, enfin est relativement bien expliqué.
Non, il n'y a plus de guide d'install, je pense, vu que j'ai fourni les fichiers pour différentes distributions.
D'accord.
J'ai enlevé tout ce qui était guide d'installation, enfin. Ça doit être. Je veux qu'il n'y ait pas besoin de documentation pour que ce soit utilisable.
Donc, le but recherché, c'est la simplicité d'utilisation.
Voilà.
Avant tout. D'accord.
Alors, l'avenir, quand est-ce que tu planifies une nouvelle version?
Très bientôt. Très bientôt, une version 0.3.1. Donc, qui devrait avoir pas mal de correctifs. Le support, bon support des. Des installeurs sur Wine. Donc, normalement, le premier jeu Wine supporté sera Fez, que j'ai eu en promo sur une autre plateforme de jeux en ligne. et aussi la synchronisation de sa librairie entre le site web et le client local.
D'accord, parce qu'il y a la possibilité sur le site web de se créer un compte.
De se créer un compte, de se créer une librairie de jeux. Et normalement, quand on se connecte sur le client, alors ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire, on peut se connecter avec son compte du site web. Donc là, pour l'instant, ça n'a aucune utilité. Mais dans la version qui va venir, dès qu'on se connectera au site web, ça synchronisera la librairie du site avec la librairie installée localement.
D'accord.
Avec la possibilité d'installer les jeux qu'on a sur sa librairie distante et pas localement, d'un seul clic web.
D'accord. Bon, des bonnes choses à venir. De toute façon, tu nous tiendras au courant maintenant à la rentrée.
À la rentrée. Alors, d'ici la rentrée, j'espère avoir sorti au moins deux ou trois autres versions.
Oui, comme ça, on aura plus de matière, parce que Girol, ça s'arrête au mois d'août. Hein, donc, ouais, on n'aura pas de radio au mois d'août. C'est justement le moment de le rappeler. Bon, merci beaucoup, Mathieu, pour ces renseignements. Et n'oubliez pas d'aller sur lutris.net et tester sur votre distribution Linux favorite.
Tous les retours sont les bienvenus pour l'instant. Je n'en ai pas eu beaucoup.
Puis, comme c'est un peu mode troll, tu n'as pas l'impression d'être David contre Goliath. Il y a d'autres plateformes, on va dire, sorties récemment sur le. Nos distros préférés
Non, parce que je pense, je pense que tu parles de Steam principalement.
Sans les
citer. Après, voilà, il y a pas mal de plateformes qui existent. Même on peut considérer que le Humble Bundle, ça fait partie des plateformes existantes. Je pense que c'est complémentaire et Lutris vient en fait se poser un peu au-dessus. De ces plateformes-là, pas dans le sens que c'est supérieur, mais plus que c'est une méta-plateforme, c'est que c'est pas figé sur tel ou tel type de jeu, c'est que ça vient se greffer par-dessus et que ça accepte de prendre en charge toutes les autres plateformes qui peuvent exister.
D'accord.
On peut aussi sur Lutris du coup installer des jeux qui ont été en libre, des jeux abandonware, des jeux émulés.
Normalement, c'est tout type de jeu. Si ça tourne sur Linux, ça doit tourner sur Steam.
Voilà, c'est là où tu disais aussi le gros avantage par rapport à des plateformes comme Steam ou même Desura qui propose sur sa plateforme des jeux libres, des jeux en plus en 64 bits, donc adaptés aux architectures 64 bits, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, Steam ne fournit que des jeux 32 bits. Donc Desura déjà a une longueur d'avance sur ça, mais surtout Lutris permet d'installer des jeux, des émulateurs à la base à partir d'émulateurs ou d'interpréteurs comme Scum, ce genre de choses.
Voilà, donc tout type de jeu, tout programme qui est censé lancer des jeux va être pris en charge.
Et avec, concernant juste une petite parenthèse pour finir, des jeux sur les plateformes comme Android, est-ce qu'il y a, tu crois qu'il y a possibilité, ça, un jour, que ça se rapproche du monde PC ou c'est...
Faire tourner des jeux Android sur PC ?
Sans faire tourner Android, je sais bien que c'est peut-être pas facile, mais.
C'est.
Parce qu'on voit qu'il y a par exemple, la console qui va sortir, la Ouya, je crois.
Oui, mais ça reste une plateforme Android. Donc,
voit qu'il y a quand même il y a l'air d'y avoir un avenir, surtout dans le rétro gaming aussi, parce qu'il y a plein de. Jeux qui sortent, notamment, on a vu qu'Amiga a été racheté par une société
on l'a pris aujourd'hui
californienne
même.
Qui va alors, exploiter le catalogue de jeux, plus de 300 jeux.
La société Amiga Inc. qui continue le développement d'Amiga OS, c'était pas mort, mais sous licence Cloud Source.
Oui, il y en a quelques-uns qui l'utilisaient. Voilà.
A été racheté, et surtout que la seule société californienne qui l'a acheté, dont je ne me souviens plus exactement le nom, l'a fait surtout pour le catalogue de jeux, de à peu près 300 jeux issus de la plateforme Amiga. On ne sait pas lesquels, et sûrement pour faire des adaptations très rapides et vite fait et très rentables sur plateforme mobile et revendre ça pas très cher. On peut peut-être imaginer, alors je ne connais pas le catalogue, mais d'avoir un Shadow of the Beast, par exemple.
Après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soit mal
porté.
Voilà. S'ils ne sont pas spécialisés dans les jeux vidéo, je ne sais pas comment ça.
Amiga Inc., ils n'étaient pas forcément spécialistes. Enfin, ils n'ont pas vraiment fait de jeux, donc peut-être qu'ils ont racheté des droits. Mais...
Ils ont racheté les droits. En fait, la société californienne a racheté les droits des jeux. Alors, je vais vous retrouver.
Les jeux, ce n'était pas Amiga qui les faisait, c'était.
Non, c'était des jeux qu'elle avait. Elle avait la propriété intellectuelle de ces jeux. Elle les utilisait pas. Donc, voilà, c'est effectivement, c'est peut-être que ça nous permettra. Qui sait ? Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent encore en faire, mais il est possible qu'ils fassent des adaptations sous Linux. On peut rêver un petit peu.
pourquoi pas, mais après l'émulation Amiga sur Linux est déjà très bonne, quoi. Donc je sais pas si
avec notamment FSUAE.
FSUAE, donc qui est fourni, alors qu'il n'y a même pas besoin d'installer sur Utris, il est téléchargé automatiquement et installé automatiquement. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il fait tourner des jeux, certains jeux sans avoir besoin de ROM aussi.
Voilà, oui, ils utilisent un projet open source pour reproduire le Kickstart Amiga, ce qui est très très bon, mais ça fonctionne pas encore très très bien. Ça fonctionne
certains jeux, enfin ceux qui utilisent pas trop le Kickstart Amiga, ça marche avec. Enfin, j'ai testé sur quelques jeux et ça fonctionnait bien.
Donc voilà. Bon, merci beaucoup. On va peut-être faire une petite pause musicale.
Allez, c'est parti.
Et ensuite, ça va troller en masse sur. On va parler d'Adopi avec toi, Gaël, et tout ce qui se passe autour.
Allez, j'envoie un petit jingle et puis après une petite musique.
You're listening to G-Rock Radio Station. You're listening to G-Rock Radio Station.
Matin ce sont 7300 petits bouts de coton à fixer avec soins et techniques aux deux extrémités identiques de 3650 petits bâtonnets en plastique rose ou bleu, ça égaye les yeux, ça fait 3650 coton tige à mettre dans 721 boîte en plastique transparent. Vous ne savez pas à quel point c'est exaltant. Vous ne savez pas à quel point c'est exaltant. Les boulots à la con. Les boulots à la con. Les boulots à la con. Mardi matin, attendent 18 000 petites boules de soufre à fixer avec des pincettes sur 18 000 petites baguettes en bois de hêtre, ça égaye la tête. De être, ça égaye la tête. Ne pas ignorer les principes et les préceptes qui font qu'une allumette est une bonne allumette. Boîte pliée, collée, expérience exigée, personnel qualifié, de quoi vous gratifier. Vous ne savez pas à quel point je suis exalté. Les boulots à la con. Les boulots à la con. Les boulots à la con. Le reste de la semaine passée à l'envoyer entre les élastiques de maillot bain enfilés, les ongles incarnés à soigner. Ne plus compter les heures de son dur labeur. Et pour sortir de cette misère, j'irai bosser pour Édouard Leclerc. Enfin un patron qui part en guerre contre la vie chère. Le reste de la semaine passée à louvoyer entre les élastiques de maillot de bain enfilés, les ongles incarnés à soigner. Ne plus compter les heures de son dur labeur. Et pour sortir de cette misère, j'irai bosser pour Édouard Leclerc. Enfin un patron qui part en guerre contre la vie chère.
On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil.
La 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 la, la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Et oui, on est revenu.
On est revenu. Vous êtes toujours en direct du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux et vous écoutez Radio Girol sur Oxy Radio.
Oui.
Ou directement sur notre serveur de flux.
Exactement,
que personne ne connaît.
Aussi. Et ben vous allez sur le site Girol
Radio.
Vous avez le petit chemur dessus là.
Ouais.
Non.
Oui, toujours. Sinon, directement sur radio.girol.org et puis c'est
aussi,
bon.
Aussi, ouais, voilà.
Alors, on va parler avec Gaëlle de l'Adopi. Je sais, Gaëlle, que tu les aimes chez l'Adopi. Hein. Tu as même reçu un gris-gris de leur part.
Oui, un email.
C'est sympa.
Adopi,
c'est
le truc,
que,
quand tu le vois, tu te dis c'est un spam. C'est tellement. C'est
mais de toute façon, l'Adopi était, maintenant, on va parler au passé, était une boîte à spam.
Je vais demander le détail, effectivement, pour avoir un courrier quand même en tête tu vois, du gouvernement.
Ah, et c'est bientôt collector maintenant. Alors, ça y est, l'Adopi ferme. Ah,
oh, Thomas !
Le plagiste arrive, nous avons Thomas qui revient de la plage.
Il n'est pas très bronzé celui-là non plus, hein, je ne veux pas dire, mais...
Qui a participé à creuser le trou pour essayer d'éterrer les câbles sous-marins.
Vous êtes cru dans l'œuf, quoi.
Ça doit être ça.
Et vous ne l'avez pas trouvé. Alors juste pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent, hein, c'est que sur les réseaux sociaux, on a pu voir, nous, Giroliens, des photos de nos chers compatriotes Thomas et Edouard en train de creuser un trou béant dans la plage à la recherche du câble sous-marin.
Où ça ? La photo ?
Je sais pas où ça. Ah,
non,
c'était à Osseau. Sur Instagram et sur Facebook et sur...
Ah bravo, ah bravo.
Sur tous les réseaux sociaux non libres possibles.
Voilà, voilà, c'est ça.
Et bien sûr, interconnecté avec la NSA, histoire que...
tout le monde soit au courant. Hein.
Bon.
C'était un avertissement. On vous cherche.
On fait un petit coucou à nos...
Mais alors, crie pas trop fort, parce que j'ai monté le son, parce qu'on a dit que sur IRC,
que
la musique est super fort, et par contre, nous, on nous entend pas, donc ne criez pas dans le micro.
Alors,
mais...
on va juste faire un petit coucou aux gens de la NSA, et puis maintenant qu'on a dévoilé le plan machiavélique de Thomas et Edouard, et je pense qu'ils vont venir nous chercher demain matin, tous.
Oui, oh, pas sûr. Il y aurait du boulot, à mon avis.
Alors, Gaëlle, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur Adopi ?
Pas que moi. Hein. J'ai évoqué le sujet comme ça parce que je l'ai vu dans la presse spécialisée sur Internet. Donc, on parle d'un changement. C'est maintenant dit Madame la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, en parlant de la coupure Internet. C'est fini. Donc, c'était effectivement, c'est une des promesses qu'ils avaient donné avant les élections présidentielles.
Enfin, ils ont quand même un peu tardé.
Et oui, ça fait un peu plus d'un an qu'ils sont au pouvoir. Et donc, maintenant c'est fini. Alors, mais dans les articles qu'on peut trouver en ligne, ils disent que c'est juste un déshabillage on déshabille Jacques pour rhabiller Paul avec le transfert des compétences, comme tu disais, au CSA. Et le CSA, on sait qu'il rigole moins déjà. C'est un peu plus, c'est un peu bizarre, moi je trouve, d'avoir confié à cet organisme cette mission-là quand même, parce que c'est.
Sachant qu'à l'origine, le CSA est là pour réguler la télévision, sachant qu'il y avait un problème de base sur l'air tien au niveau télévision, c'est que la ressource est limitée, donc tout le monde ne peut pas utiliser les ondes hertziennes pour faire sa petite télé chez soi.
Voilà. Ce qu'on reçoit, on n'a pas le choix. C'est...
Comme dirait notre ami Benjamin Bayard, on est dans une configuration quand même Minitel 2.0. Enfin, Minitel, pardon. C'est-à-dire qu'ils émettent, on reçoit. On se tait, on n'a rien à dire. On peut éventuellement téléphoner sur un numéro surtaxé pour donner notre avis qui, de toute façon, ne sera pas diffusé en direct à la télévision, surtout s'il est un peu critique. Hein. Ça c'est pour toutes ces émissions qui vous proposent d'appeler pour 8 € la minute.
Oui, mais maintenant, ils lisent les tweets aussi en direct, surtout les émissions, mais après, ils en parlent d'une manière, ils peuvent enrober, ils peuvent...
Tout ça, c'est que voilà, ce que c'est la télévision, et le CSA est habitué à réguler ce genre de choses-là, et surtout à réguler une ressource rare. Internet, c'est complètement différent. Or, sauf que j'ai pas l'impression que la mentalité du CSA a changé. C'est-à-dire que, mais comme de toute façon nos politiques et toute l'industrie audiovisuelle, ils n'ont pas compris que Internet n'était pas une ressource rare. C'est que les connexions, on en a tous et on peut tous de chez soi partager. et que donc voilà, donc on confie à un organisme, une administration indépendante, quelque chose qu'elle ne comprend pas. Donc forcément, comme disait l'article de, c'est l'article de PC Impact, c'est déshabiller Pierre pour habiller Jacques.
Effectivement, mais alors quelque chose qui pourrait être rassurant de premier abord, mais on verra si c'est conservé, c'est à savoir que c'est toujours le juge qui, au final, si j'ai bien compris, hein, qui est quand même justement le dernier, la personne pouvant décider s'il y a sanction ou pas. C'est pas.
Oui, sur la coupure en fait.
Oui. Enfin, sur la coupure. Alors, je sais pas si ça concerne la coupure.
Je sais pas si la garde ou pas.
La coupure, c'est finalement plutôt sur la sanction. Donc, c'est administrative.
Ça dépend si ça passe, si ça devient une contravention. Alors là, c'est comme ça pour les radars. Hein, c'est pas, ouais, voilà,
là où est l'inconnu en fait, et qu'on ne sait pas encore très bien.
Ouais. À mon avis, ils vont pas hésiter longtemps, quoi. Ça va être une nouvelle machine à cash, et puis voilà, quoi.
Effectivement, comme... si on parle de, oui, de, on a, ils avaient évoqué des amendes moins lourdes, aux alentours de 60 euros, je crois, si j'avais bien retenu. Alors effectivement, quand on reçoit 60 euros, entre avoir des poursuites ou payer 60 euros, qu'est-ce qu'on choisit pour on se dit le rapport nombre de contenus multimédia téléchargés gratuitement versus l'amende. Enfin, au final, on dit peut-être qu'on s'y retrouve. Ça, mais et c'est là qu'on, d'où vient la question. Pourquoi ne pas proposer des abonnements à la Netflix ou des choses comme ça qui,
et pourquoi pas une licence par rapport au contenu multimédia de type film.
Ça fait des années que plein de personnes sur le net en parlent et disent...
Sachant que
au moins qu'il y ait une réflexion sur le sujet. Quoi.
L'Adopi se sentant déjà acculé et se sentant mourir, les gens de l'Adopi ont proposé un système effectivement de licence, d'espèce de licence globale pour des échanges non
marchands. Alors oui, il y a eu cette espèce d'annonce que Bluetooth a mis en exergue dans un de ses articles.
Bluetooth et plein d'autres gens.
Et ouais, mais c'est juste une étude en fait. Hein. Donc, c'est juste une étude et en plus de ça, ça pourrait très bien être repris pour exclure tous les contenus qui ne seraient pas validés par l'industrie du divertissement. Hein, de dire, alors il y aura des réseaux peer-to-peer qui seront label pur, hein, parce que je pense que le label pur, ils ne vont pas le laisser tomber. C'est trop bien. Donc voilà, et puis la labellisation, tu vois, ce genre de truc bien propre. Bon, ouais. Ils vont garder et je pense que c'est pas forcément très bon, quoi.
Après, ce que j'aimerais vraiment, c'est que ça sera... c'est pas facile. En général, les gouvernements ont tendance à répéter un peu les mêmes erreurs, quoi, quel que soit le côté d'où ils viennent, mais qu'on se dise, bon, on a réfléchi un peu à l'ancienne comme des dinosaures sur un sujet d'actualité qui nous dépasse. Sans avoir consulté les gens les plus à même les plus professionnels, on va dire, dans le domaine, on s'est retrouvé à dépenser des millions dans quelque chose qui finalement on a abrogé. Donc, est-ce que je pense que ce schéma peut se reproduire sur plein d'autres sujets, parce que là, nous, on connaît bien cette problématique, mais dans plein d'autres domaines, que ce soit l'éducation, je pense à l'éducation parce que j'en entends parler de moi dans mon entourage et des choses comme ça, il y a des choses aussi aberrantes, voire pires, et qui sont aussi du gâchis d'argent. Donc, à un moment, on se demande. Comment des gens qui sont des énarques.
Mais en fait, je pense que c'est la pression des lobbies, tout simplement. Je pense que ce gouvernement nous a laissé croire, en tout cas avant qu'il soit élu, que ça ne serait pas la même, hein, ça ne serait pas la même chose. Eh bien, c'est raté. On voit très bien qu'à tous les niveaux, c'est les lobbies qui sont là. Dans l'industrie culturelle, déjà, ils sont vraiment balèzes. Donc, ils sont restés. Ils ont déjà, dès le départ, noyauté tout ce qui était ministère de la Culture. Ils ont bien mis les pions là où il fallait. Puis on a bien vu ce que ça donnait aussi par rapport à l'environnement, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, les lobbies sont présents, ils sont bien là, ils font leur loi.
Microsoft en tête pour revendre des licences à l'Assemblée nationale.
Voilà, et puis on voit bien, même la gendarmerie nationale a fait un petit effet il n'y a pas longtemps, je ne sais plus sur quel média j'ai lu ça.
Ils ont refusé.
Voilà.
En même temps, ils sont dessus depuis un moment, ils maîtrisent complètement leur système d'information.
Voilà, et eux, ils en sont
sortis. C'est un corps de l'armée, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un produit qui ne maîtrise pas complètement.
Ouais, en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit le fait que ce soit un corps de l'armée. Peut-être qu'il y a des corps de l'armée qui n'auraient pas réagi de la même manière, j'en sais rien, mais en tout cas, eux ont bien réagi. Pour dire, je ne sais plus quel sujet en détail, mais pour dire qu'ils ne voulaient,
voulaient pas
des licences abusives microsoftiennes.
En fait, toujours est-il que je reviens sur ce que disait Gaël, effectivement, on est dirigé par des gens qui ne maîtrisent rien, qui sont à la solde, et on le verra dans le prochain sujet sur justement l'allocution de Manuel Valls pour faire la promotion des outils de surveillance, comment la manier la langue de bois et comment, en mettant en parallèle ça, des articles de presse vraiment indépendantes et ce qui s'est vraiment passé, on peut voir qu'on est dirigé effectivement par...
Bon, on a déjà eu Fleur Pellerin qui nous a proposé un cloud souverain, donc ça c'était déjà super balèze comme proposition, il faut le dire. Le truc qui sert à rien, Minitel 0.12, voilà. Ridicule. Et donc, bon, continuons.
Si on a le cloud de SFR, ils en font la pub à la télé, c'est que c'est
bien.
Ah
oui, le cloud, non, c'est pas eux, le cloud maîtrisé, je sais plus.
Si.
Bref.
Enfin, en tout cas, entre un Obama qui promet de protéger les lanceurs d'alerte et qui enfin les traque partout dans le monde et qui use de techniques très diplomatiquement très contestables, notamment qui sur le droit d'asile et tout ça, et notre gouvernement qui nous promet monts et merveilles en supprimant une loi d'OPI qui, en plus de coûter cher, ne sert à rien. Voilà, et qu'il ne le fait pas, c'est là où on voit l'étendue de la propension de nos politiques à raconter des grosses conneries plus grosses qu'eux.
Oui, et puis surtout dire waouh, ouais, les États-Unis, ouais, pas bien, tout. Bon, les États-Unis ont juste dit avec le petit sourire en coin qu'il fallait pas trop qu'ils la ramènent parce qu'ils savaient très bien que les Français, les Allemands, ils font tous pareil aussi à leur manière. Et les Français sont quand même assez. C'est tordu en la matière.
Ouais, c'est assez spécial.
Parce que chez nous, en fait, on ne s'écoute pas sur notre propre territoire. Hein. On passe par les étrangers, hein, et si possible, les dictatures.
Mais il y a aussi une autre spécificité dans le cas français, c'est qu'ils ne regardent pas le contenu en lui-même, ils regardent le nombre d'échanges entre des personnes.
Oui, et la fréquence, je pense que
c'est appréciable.
Mais il faut savoir que le dispositif Prism était avant tout fait pour collecter des métadonnées, parce qu'elles sont plus facilement exploitables que les données, effectivement, les transcriptions exactes des communications.
Oui, sachant que Prism, c'est un tout petit bout du gros machin. Oui. Quoi,
pour rappeler. Un petit bout du gros zizi, comme l'appelait Bluetooth. Donc voilà. Alors, il y a autre chose aussi c'est que tu voulais annoncer, et tu es bien placé pour en parler, c'est l'automatisation des flux entre l'Adopi, enfin maintenant feu l'Adopi, et les fournisseurs d'accès Internet. Ça y est, c'est automatisé.
Ah bon?
Ah ben écoute, tu en as parlé tout à l'heure.
Je disais que les FAI avaient déjà râlé, dans le sens où ils n'étaient pas rémunérés quand... par rapport aux requêtes administratives qu'on leur demandait. On leur demandait en fait un travail supplémentaire en dehors de leur champ de compétences qui est quelque chose de pas habituel, on va dire, et donc pour lequel il n'y a pas de process en interne chez les FAI. Et on leur demande donc d'effectuer ces tâches qui, normalement, devraient générer un revenu, mais plutôt être rémunérées à leur juste valeur par l'État ou les organismes de l'État qui font ces requêtes auprès des FAI.
Voilà, mais là c'est fini. Un décret publié cette nuit en fait oblige les FAI à s'interconnecter avec le système informatique de l'Adopi pour pouvoir transmettre de façon automatisée en fait les adresses IP et les identifications d'adresses IP.
En fait, c'est on n'installe même pas de backdoor, ouvrez-nous une porte de devant et puis on va comme
c'est ça
qu'on puisse aller collecter toutes les infos nécessaires chez vos abonnés.
Donc pour un fournisseur d'accès qui libère les pigeons, soit dit, voilà, il finit en fait les liasses de papier avec les adresses IP que l'on envoie à la rue de Texel et maintenant c'est directement fait automatiquement, donc flasher plus, flasher mieux, et effectivement ramasser un maximum de pognon, un peu comme les radars automatiques.
Et donc, je pose la question qui tue. Comment on fait si on veut, on veut pas que son adresse IP soit chopée quelque part?
Alors,
à l'insu de son plein gré.
C'est
l'anonymisation des flux.
Si on aime consommer des biens culturels et que.
Ah non, mais n'importe où, pour n'importe quoi, après tout, si tout est attrapé au vol.
Alors, tout simplement, on utilise un VPN à l'étranger.
Ouais.
Donc voilà, un VPN, c'est-à-dire on achète un abonnement à.
Madame Michu va avoir des problèmes.
Madame Michu
On a un serveur dédié, par exemple, chez un hébergeur.
Madame Michu va avoir des problèmes.
Je sais pas
comment
ça se passe.
D'après moi, c'est une IP française, donc ils ont moyen de retrouver.
Si t'es sur une IP OVH canadienne, par exemple, ou allemande, je crois qu'ils en ont aussi.
Je pense qu'il vaut mieux prendre un serveur en Ukraine ou un truc comme ça.
Et voilà.
En Russie. Pardon. En Russie.
Bah écoute, ne le dis pas trop fort parce que la NSA nous écoute.
C'est ça, donc le moyen, voilà. Et y a l'autre moyen, c'est d'utiliser des services que qu'ils ne sont pas capables de surveiller, comme les news groups, par exemple. Un petit abonnement sur les news groups. Et puis hop, là, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez, qui, en plus, bien avant que ce soit disponible en France, puisque ils nous imposent une chronologie des médias qui ne veut plus rien dire à l'heure actuelle.
Oui, oui. Alors ils parlent toujours de dire il faut qu'on change tout ça, c'est pas bien, blablabla.
Font jamais. Et du coup, avec un abonnement Newsgroup, vous pouvez en avoir des très très bons pour une dizaine d'euros par mois. Vous pouvez télécharger allègrement tout ce que vous voulez sans jamais être inquiété, tout simplement.
Ouais. Ah bon. Ça marche comment, Newsgroup? C'est quoi?
Par contre, c'est du Minitel. Hein. On se connecte sur des serveurs. Il y a des Newsgroup à l'origine. C'est les ancêtres. On peut voir ça comme l'ancêtre des forums.
D'accord.
Ça se passait dans son.
C'est assez vieux. Ouais. Ça date du fin des années 80. Début
ça 30, ressemblerait à une mailing list, en fait.
Ça date d'avant le web, même, je crois.
Oui.
Waouh.
Et c'est les BBS, je crois que c'est l'ancêtre. Ça ressemble un peu à ce qu'ils disent les BBS. Quoi. Ouais. On postait un message et les gens postaient des réponses. Ça ressemble vraiment à un forum ou à une liste de diffusion email, comme la liste de diffusion Jirol, par exemple.
D'accord. Et donc tu choisis ton groupe en fonction de.
Voilà, sauf qu'on peut y mettre des petits fichiers en fichier joint. Et puis il y a un ensemble de protocoles pour désassembler les fichiers, les envoyer sur le serveur de Newsgroup, et puis les réassembler une fois chez le client, etc. etc. Il y a aussi un truc qu'on utilisait beaucoup et que l'Adopi, je ne sais pas si ça se fait encore, mais au début des années 2000, on avait l'IRC Juarez. Avec des bots IRC qui tournaient sur des serveurs et on lançait des commandes DCC SIND automatiquement et le bot
nous. Tu sais que là on est en train de faire un truc qui est peut-être pas légal. Hein.
Mais
on s'en fout.
Mais en même temps, sur de l'IRC Juarez, moi j'ai téléchargé mon premier CD Linux sur de l'IRC Juarez.
Oui, je dis ça, c'est une boutade parce que de toute façon, effectivement, ce sont des outils. Techniquement, les outils ne sont pas incriminables. Mais c'est vrai que dans les lois telles qu'Adopi ou même DATSI, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait déjà l'idée de criminaliser les outils. Donc, je ne sais plus trop ce qu'il en est resté au final, mais bon.
Donc, si vous voulez télécharger un Ubuntu 6.04, par exemple, vous pouvez prendre un abonnement à un serveur de Newsgroup. Il y en a plein sur Internet. Pour une dizaine d'euros par mois, vous allez pouvoir télécharger votre CD de 6.04.
Oui. 6.04 n'existe pas. C'est le piège. C'est 6.06.
C'est ça. Et vous allez pouvoir télécharger ça à la vitesse maximum souvent de votre ligne internet. Donc si vous êtes très près de SDSLAM,
faut quand même donner un petit peu la parole à ce qui se passe sur notre IRC, notre IRC de base, hein. C'est notre chaîne IRC, Jirol. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que VPN c'est pas la solution magique, que Tor c'est pas mal. visiblement.
Mais sinon, il y a
un cumul de touffe, quoi.
Il n'y a plus qu'à aller sur Gopher, on est tranquille.
Je fais des trucs en même temps. Donc... Alors, il y a l'Islande, dit avec Dirol.
Ils ont un bon câble qui vont en Islande. Un truc.
Alors, il dit que Newsgroup et l'IRC, c'est aussi traçable que d'autres protocoles.
Oui, mais l'Adopi s'en soucie pas pour l'instant.
Disons qu'ils ne savent pas comment on s'y connaît.
C'est ça. Ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que quand ils voient des...
Le CSA, je pense qu'ils sauront encore moins.
D'ailleurs, au passage, bonjour à Veldirol. Ça fait plaisir de te voir sur l'IRC.
Mais oui, tiens, en fait.
Et d'ailleurs, il me donne gentiment la réponse que m'a donnée Mathieu pour Python. C'est import subprocess pour justement lancer... Le truc de geek.
Ah
on peut se permettre.
Truc de spécialiste, pardon. Excusez-moi.
Donc voilà, enfin toujours est-il que la législation va vraiment durcir avec le paquet parce que le CSA est réputé quand même assez hargneux. Oui, mais en même temps,
s'ils aboient, en parlant, je ne sais pas, de firewall dans OpenOffice, ils seraient capables.
Parce que, en fait, ce à quoi on pourrait revenir, c'est ce qui se faisait pareil, des réseaux, en faisant des moins sur le bassin, et puis on y allait pour jouer en réseau, pour s'échanger des bons procédés, puis faire de la copie.
La copie partie.
Des copies, c'est un genre de copie partie. Sauf qu'on jouait beaucoup en réseau, et on copiait aussi pas mal. Voilà.
Où on peut se mettre. L'utile à la base.
Voilà.
Mais là, tu es dans un cercle d'amis.
Voilà, mais il y a pareil, dans un cercle d'amis, il y a le BitTorrent privé. Se monter son tracker privé réservé qu'à ses amis.
Sauf que depuis la DSI, la loi a changé, c'est-à-dire que l'exception pour copie privée est devenue donner droit à zéro copie. Donc, Donc voilà, enfin, bon, bref. On va pas.
Mais en tout cas, il y a des moyens. Je pense qu'au final, la décentralisation et utiliser ses propres outils chez soi, ça peut être une solution.
Oui, mais là aussi, Madame Michu, elle est un peu dans le caca, Madame Michu.
Oui, mais comment ça se passait moi, au début des années 2000 les gens qui savaient télécharger.
Ceux qui ne savaient pas.
Ceux qui se lavaient, ceux qui savaient pas, eh ben ils allaient voir les copains qui leur gravaient des CD.
Ouais, c'est pas faux. La question va être scannée partout alors, les moyens possibles, et puis ils risquent de faire allumer des alarmes un peu partout, quoi.
Bah, du coup, ça me rappelle le fait qu'on quand même on revient de loin avec Depi aussi, quand à une époque ils parlaient d'installer sur les ordinateurs un client, enfin un petit.
Un spyware, un backdoor de la NSA.
Un backdoor, pas pour la NSA.
J'espère qu'ils l'ont abandonné l'idée.
Ils l'ont abandonné dès le départ parce qu'ils ont vu que déjà technologiquement et techniquement c'était peu réalisable pour eux et tu ne pouvais pas imposer ça aux gens. Enfin,
c'est surtout que ce qui était assez bien, ça c'est sympa, c'est que la personne qui était en charge de faire les specs de cet outil, qui était le Rigel, je crois qu'il s'appelait, qui était un professeur Rigel ou un truc comme ça, et en fait on s'est aperçu qu'il avait pas mal de brevets. Il avait breveté pas mal de techniques qu'il allait vouloir employer dans son futur logiciel. Donc ça, c'était génial. C'est-à-dire qu'il allait créer des spécifications d'un logiciel qu'il allait donner à des éditeurs, et ces éditeurs allaient de toute façon lui reverser des royalties assez, assez correctes pour pouvoir utiliser les technologies qu'il avait brevetées. C'est encore, on a encore l'exemple typique d'un conflit d'intérêts. Voilà. Donc de toute façon, l'histoire de l'Adopi, ce n'est que ça.
Oui, peut-être.
Mais moi, ce qui me choque dans toutes ces histoires d'Adopi, c'est pas vraiment le. Oui, toute l'idée d'Adopi est vraiment contestable. Mais ce qui me choque plus, c'est l'absence d'offres légales qui tiennent la route.
Regarde, label pur.
Mais voilà, il y avait un article qui était sorti il y a pas longtemps sur le label pur. Enfin,
magnifique.
Une review de tout ce qu'offrait le label pur. Plateforme par plateforme, c'était complètement ridicule.
D'ailleurs, c'était la Adopi qui était venue faire le service après-vente des sites parce que pour essayer de se défendre un petit peu. Mais même sans ça, essayer sur une plateforme légale de trouver, parce que j'ai essayé de trouver des musiques en FLAC, c'est-à-dire en qualité non compressée, non destructive.
Sur Bandcamp, il y en a quand même.
Oui, mais sur Bandcamp, mais tu veux trouver, il y a certains articles un peu mainstream, tu cherches, tu ne trouves pas.
Non, mais enfin, je vois Bandcamp comme un moyen de distribution pour certains artistes, enfin ceux qui s'inscrivent dessus. Quoi.
Oui, mais voilà, le truc, c'est que si tu cherches, par exemple, stream de l'Universal ou autre,
du MP3.
Tu trouveras.
Ouais, non, mais sur des plateformes plus génériques, à la limite, je préfère pirater que de payer de la musique sur une plateforme genre Amazon ou des choses comme ça, parce que ça nuit autant aux artistes que. Enfin, il y a plein d'artistes qui se sont mis à râler contre ces plateformes parce que ça, c'est totalement, enfin, c'est n'importe quoi.
Bah écoute, il suffit de voir ce que ça donne après la fête de la musique. Il n'y a plus de groupes qui jouent déjà pour commencer. Et puis, ceux qui jouent, ce sont des gamins qui passent, qui font les DJ et qui passent des musiques qui sont à MP3, qui sont compressées à mort. Et c'est un son pourri. Ils sont habitués maintenant. Ils ont les oreilles qui sont habituées.
Alors, il y a juste on a une réaction sur Ravel Dirol qui nous propose d'utiliser comme moyen d'échange Dead Drops. Alors le site c'est http://deaddrops.com/fr et voilà.
Alors, est-ce que c'est pas un outil manifestement destiné à oui voilà c'était la formule magique dans la loi. Est-ce que c'est des outils manifestement destinés à télécharger illégalement, enfin je crois un truc dans le genre.
C'est de l'échange de.
Oui, bien
comment
sûr.
Comment on faisait. Enfin, ça a toujours plus ou moins existé de toute façon.
Mais à l'époque des cassettes, quand la cassette est sortie.
Je pense même avant, dès qu'on a pu recopier quelque chose, on l'a fait. C'est...
Oui,
je
mais
crois
voilà,
que c'est instinctif
c'est...
chez l'être humain même.
De toute façon, c'est même pas humain, c'est universel. Toute la vie, c'est de la copie, quoi. Donc, je sais pas comment on peut arriver à l'idée qu'il faut absolument. Empêcher cette chose d'arriver. Quoi.
Ah, ou empêcher, ou alors l'autoriser
le
contre.
Ouais, oui, non, mais le contrôler à ce point-là, c'est pas possible. C'est comme empêcher l'eau de couler à un moment donné, ou l'air de circuler.
Il me semble, je crois que j'avais déjà évoqué cette petite anecdote, il me semble que j'avais lu quelque part, alors savoir si c'est vrai ou pas, qu'au début de l'avènement de la voiture, du moteur à explosion et du véhicule motorisé, l'Angleterre avait fait passer une loi comme quoi, pour ne pas effrayer les chevaux, il fallait qu'une voiture soit précédée. d'un homme avec des drapeaux qui avertissent tout le monde qu'une voiture allait arriver pour ne pas faire peur aux chevaux. Et c'était en fait c'était le lobby des chevaux qui avait réussi à faire passer cette loi. Pour...
les chevaux qui arrivaient. Ah,
Thomas agrée cette loi. Il est content, il voudrait bien que ça revienne.
Voilà, alors c'est une anecdote que j'ai lue sur un site internet, je ne sais plus lequel, mais c'est même si c'était faux, effectivement, c'est exactement ce que l'on fait là.
Oui, bien sûr, mais il y a aussi les éteigneurs de réverbères qui avaient monté toute une. Qui s'étaient rebellés lorsque l'électricité était arrivée et qu'on n'avait plus besoin d'eux pour éteindre les bougies qu'il y avait dans les réverbères. Quoi. Donc voilà.
Et j'avais vu aussi une vidéo il n'y a pas longtemps où les personnes expliquaient que le pire dans tout ça, c'est que là on parle des médias un peu récréatifs, on va dire, la musique, le cinéma, les séries, quoi, tout ça. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont plus importantes, les livres. Je pense aux livres, mais pas les livres pareils de
oui, alors, pour
le loisir, je parle des livres pour apprendre, des livres qui se...
Il y a beaucoup de choses qui sont...
Un livre, un riche, il pourra toujours se le payer.
Qui sont en danger.
Ouais. Un pauvre, il ne pourra pas se le payer.
C'est pas juste la culture au titre du divertissement qui
va pas
être accessible, c'est tout le reste et c'est vraiment très, très, ça peut être très dangereux. Il y a un gars qui écrit beaucoup sur le sujet et qui est vraiment... bien informé, puis qui connaît bien tous ces sujets-là, qui a un blog qui s'appelle Silex. J'essaie de me rappeler son pseudo. Ça me reviendra. C'est celui qui fait aussi Copyright Madness et qui référence en fait toutes les folies liées au copyright, que ce soit effectivement dans la partie divertissement ou bien dans la partie instruction ou sur même les brevets, les semences, etc., etc. Et donc, il y a des choses qui sont risibles, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout et qui font vraiment très peur, quoi. Voilà, juste pour dire que c'est pas juste marrant, quoi. Ça fout la trouille.
C'était le reportage qui était passé sur Arte, comment il s'appelait, sur les internets. J'essaie de le retrouver. D'ailleurs, il a été assez librement partagé et sur. On pouvait le trouver. Il était sur Arte plus 5, c'est donc.
Ouais. Il était pas en licence Creative Commons.
Si, donc il a été assez vite.
Sur une licence Creative Commons, je ne sais pas laquelle.
Il était vite encodé dans des bons formats et mis sur les trackers de ouais. Torrents, légalement hein, pour le coup. Je me souviens plus du tout du titre. Par contre, c'était l'histoire des.
Ça
internets.
Ne me revient pas. Ça ne me revient pas non plus, mais.
Ou quelque chose comme ça.
C'était pas la véritable histoire, non, tout comme ça. Je sais plus. Ça ne me revient pas non plus. Donc.
Là, il reste 7 minutes, je vois. Moi, j'aimerais bien parler d'un dernier petit sujet. Pour ceux qui ont suivi un peu aussi l'actualité, certains blogueurs en ont parlé. Il y a eu un projet Ulule qui consistait à libérer le cahier de l'admin Debian. Alors, c'est un cahier de l'admin, c'est un manuel qui a bien fonctionné, qui est écrit par deux auteurs français. Enfin, je pense qu'il y a une version anglaise. En fait, je crois que c'est les mêmes qui font la version anglaise, il me semble. Tu pourras peut-être me confirmer, Striker. Moi, je l'ai reçu hier, la version papier de Squeeze. Donc, alors, si je me souviens bien, le but, c'était de libérer la version Squeeze.
Et de traduire aussi dans certaines langues, non ? Il me semble que c'était parmi les buts de faire des traductions. Mais je pense que français et anglais, c'était déjà fait, il me semble.
Mais par contre, on devait encore l'acheter et on ne pouvait pas le copier, il n'était pas sous licence libre. Donc c'est distribué chez Erol. Mm-hmm. Et en fait, cette campagne de don a eu un succès assez fou, parce qu'elle a été dépassée de, je ne sais pas, je dirais... Ils demandaient 15 000 euros en gros sur quelques semaines et on est arrivé à plus de 25 000.
Oui, ils ont dépassé leur plus haut objectif, il me semble. Normalement, il y a plusieurs stades de réussite d'un projet. Et là, il me semble qu'ils ont atteint le plus haut objectif qui s'était fixé. Et,
du coup, ils ont aussi libéré quelques. Enfin, ils ont donné des liens pour ceux qui avaient contribué. Donc, c'est des contreparties, en fait. Alors, le projet de financement Ulule ou les choses similaires, c'est assez intéressant. Ça rejoint pas mal tout ce qui est aussi les Kickstarter.
Oui, voilà, il y en a plein maintenant, des plateformes.
Tout ça pour dire qu'on arrive à une économie parallèle.
C'est du financement participatif.
Qui commence vraiment à se mettre en place et à se développer de manière significative. On voit que les gens adhèrent surtout. Et avec aussi les bitcoins, s'ils arrivent à se développer, à ne pas se faire... Parce que là, on en met pas mal de bâtons dans les roues en ce moment. Notamment, ça embête les banquiers, il faut dire quand même.
C'est un peu logique en même temps.
Ils ne comprennent pas trop. Les gens font de l'argent sans passer par eux.
C'est une monnaie parallèle. On passe déjà le stade du troc. Et donc, c'est pas... Dès que ça sort des sentiers battus et que surtout ça échappe effectivement à ceux qui contrôlent tout ce qui est financier et monétaire, forcément, à un moment donné...
Il me semblait que Mastercard et Visa avaient demandé justement aux utilisateurs d'utiliser Bitcoin il n'y a pas longtemps. En fait, ils avaient interdit l'utilisation de Mastercard et Visa aux utilisateurs de VPN. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire qu'ils demandent aux utilisateurs d'utiliser.
Ça doit être ça.
C'est exactement ça, oui.
Effectivement. Enfin,
sans vraiment le dire, mais je voyais que cette explication, en fait.
Bien vu. Donc, finalement, ils vont lui donner de l'avenir, cette petite monnaie.
Voilà, maintenant, il faut juste que Madame Michu s'en se l'approprie. Là, ça va être compliqué.
Et c'est là qu'on voit que, enfin, c'est ça, tout ça pour en revenir au fameux, le financement, par exemple, de l'audio, enfin, de tout ce qui est musique. Pourquoi les gens, du flatteur ou des choses comme ça, ce serait tellement plus simple. Moi, j'écoute un artiste, je l'aime bien, je clique une fois sur flatteur, par exemple. Voilà,
alors, flatteur, je sais pas. Ou des choses similaires.
Mais
je sais que c'est pas forcément facile à.
Mais il n'y a pas eu de réflexion vraiment, je pense, de la part des dirigeants sur une manière vraiment de financer les.
Il y a des réflexions qui se font, mais elles n'atteignent pas les sphères décisionnelles d'un pays.
Franchement, il faut qu'on m'explique la copie privée, donc sur des supports tels que des disques durs, bientôt des tablettes et enfin.
Tu parles de la taxe.
Voilà, à qui ça profite à part ceux qui ont déjà plein de thunes.
Ça profite effectivement, de toute façon, oui, mais après, parce qu'après le système de redistribution de tout ça, il est à la fois compliqué,
opaque, obscur.
Voilà. Donc forcément, c'est que ça profite toujours même, hein, c'est bien logique.
Après, quand on voit le
salaire, on reverse ça au fonds de soutien, machin. Bon.
On reverse ça dans les poches des cadres de la SACEM plutôt. Enfin...
Oui, par exemple.
Non, t'es mauvaise langue. Tu oublies les voyages et tout, les vacances.
Les repas, les paniers repas.
Oui, franchement, il faut bien qu'ils mangent et qu'ils prennent l'avion.
Il faut faire trajet. Bref, donc oui, et puis les auteurs, ils ont quand même bonne mine, les auteurs, ils servent à ça, ils servent d'alibi de toute façon. Au final, les auteurs en tant que tels, les gens qui sont inscrits à la SACEM depuis des années, qui ont quelques titres, mais bon, qui sont pas des blockbusters, voilà, ils servent d'alibi. Et, bon, je vous renvoie au fameux schéma que Martin avait fait pour Framasic, c'est très très parlant, c'est édifiant, donc pourquoi s'inscrire à la SACEM quand on voit ces graphiques, on sait que... faut pas y aller, quoi. Ça sert à rien, les gros, quoi.
Moi, ce qui me tue un peu, c'est même dans mon entourage, je connais des gens qui sont lancés dans la musique, et je sais qu'au fond, c'est avec l'espoir de faire de l'argent tel qu'ils le voient, enfin d'en vivre à la manière de, en gros, être riche même, tu vois.
Accéder à...
Je vois le côté un peu, je vends plein de disques et non, ça marche
pas
comme
que,
ça.
Ben là, c'est pareil, il y a des... Dans ce qu'avait fait Martin, on voit bien que dans les graphiques, on voit que ce que gagnent des autoproduits, par exemple, c'est toujours plus efficace quand c'est toi qui gères de A à Z. Ou après, il montrait l'évolution par plateforme. Il y a des plateformes qui vont prendre un peu plus en fonction de la taille, etc. Et pour arriver à des gestions par des sociétés comme la SACEM. Et à ce moment-là, tu touches plus grand-chose, quasiment rien. Donc l'autonomie est toujours la meilleure. Des solutions. Après, le problème, c'est qu'il rêve d'accéder à un système dans lequel, effectivement, il y a peu d'élus, beaucoup d'appelés.
Mais
les élus touchent énormément. Donc, si effectivement tu veux accéder à ça, tu es obligé d'entrer dans le système. Mais bon,
forcément. Enfin, maintenant, il y a tous les outils qui sont nécessaires pour pouvoir s'autoproduire et obtenir une bonne visibilité.
Bien sûr.
Et je pense
après,
qu'on peut aller...
tu gagnes pas non plus des milliers de cents. Faut pas.
Non,
faut
mais
pas rêver.
Bon, après, il y a une sorte de. Après, il faut formater. Si on veut vraiment toucher le plus grand public et vraiment gagner beaucoup d'argent, le moyen le plus simple, c'est aussi de formater sa musique de manière
mais
à ce que ça plaise au plus grand nombre.
Alors, certains finissent par le faire, effectivement. Bah, tu formates. À un moment donné, pour que ça plaise, il faut arriver à déjà accéder à une radio, une des radios qui tiennent effectivement les rênes de ce qui est populaire, on va dire, de ce qui est au top 50. Mais parce que eux sont intéressés, c'est un système qui est très fermé parce qu'en fait les intermédiaires qui sont les médias sont intéressés maintenant. Ils ont eux-mêmes des billes dans des maisons d'édition, etc. Donc ils promeuvent leurs propres produits parce qu'ils vont regagner au final, ils vont regagner dessus. Et donc tu vas entendre 50 000 fois les mêmes titres, c'est pas grave parce que eux, même s'ils payent des droits dessus, ils en retouchent de l'autre côté, quoi.
En général, les artistes qui sont qui perçoivent une bonne promotion sur les médias, c'est des créations de justement des maisons de disques.
Oui, bien sûr.
Donc,
si tu veux accéder à ça, il faut presque te faire remarquer sur, je sais pas moi, sur ton physique plus que sur ta musique, quoi. C'est tout, quoi. Il faut passer des castings, quoi.
Le mieux, c'est vrai que les musiciens se rendent compte, et je pense qu'il y en a plein qui se rendent compte, mais que ça n'a aucune valeur d'être reconnu sur les médias grand public.
Après, je pense que tu dois pouvoir réussir à vivre de ta musique en faisant des concerts. Oui.
Bah, bien sûr.
Sur une base régulière.
Alors, ça se fait. Après, tout dépend de ce que les gens entendent par en vivre et puis à quel niveau ils placent les choses. Hein. C'est toujours pareil. Quoi.
Il y a plein d'artistes qui font de la bonne musique et qui ne sont pas forcément dans les petites cases qui sont fixées par les gros médias. Et je pense qu'ils arrivent à en vivre. Alors peut-être pas aussi bien que les grosses productions qui sont faites pour ça, qui sont faites pour générer de l'argent.
Et vendre.
Mais il y a quand
bien
même...
Bien sûr, ça existe. Et puis ça existe même sous licence libre. Hein. Donc aujourd'hui, en fait, il faut arrêter de penser que le droit d'auteur protège et donc protège l'aspect aussi financier de la chose. C'est complètement dépassé. Il faut arriver à décorréler les deux parce que franchement, ça n'a pas, c'est pas lié, quoi. Tout simplement.
Je crois qu'on a dépassé un peu le.
Oui, on a dépassé. Oui, mais bon, c'est Radio Troll ce soir.
C'est ça. Enfin, on va dire de toute façon, on va se quitter sur ces
voilà.
Jolis mots.
Alors,
le débat continue hein, sur les réseaux sociaux, sur IRC.
Sur l'IRC, irc.freenote.net, salon dièse Girol. Pour ceux qui veulent, ou sinon vous allez sur radio.girol.org et même si la radio ne diffuse pas, il y a une petite application web pour pouvoir discuter avec nous sur l'IRC.
On va remercier encore une fois Oxy Radio de nous retransmettre en direct et puis on va remercier aussi Antoine qui a fait un travail merveilleux cette année pour nous permettre d'avoir notre stream et de pouvoir aussi maintenant faire de la radio en direct quand on veut.
Voilà, depuis
et puis
un téléphone
on va
portable.
Aussi remercier RSR qui retransmet nos podcasts quand ils sont faits.
Quand ils sont faits, c'est ça.
Tous les lundis et les jeudis, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Merci à eux, merci à tous.
Et puis on se retrouve, nous, en septembre.
Voilà.
Le deuxième mardi de septembre, si
oui,
tout va bien.
Oui, parce que les vacances, au mois d'août, on ne sera pas là.
Oui, il n'y a pas de jour, il faut qu'on se repose quand même.
Un petit peu.
On va aller faire de la plage libre.
On va faire oui.
Des trous libres.
Des pâtés de sable.
Bon, on va encore aller voir s'il y a des câbles sous-marins à déterrer.
À Haussegor.
Voilà.
Allez, on vous souhaite à tous de bonnes vacances et à l'année prochaine.
Bye bye.
Ciao.